Alors bonjour à tous, c'est un podcast beauté un peu plus spécial aujourd'hui car nous sommes tous confinés depuis à peu près 22 jours. Pour vous permettre de vous évader un moment, j'ai souhaité continuer les podcasts beauté à distance. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai bien envie de rêver un peu en ce moment et pourquoi pas m'imaginer en train de prendre soin de moi, tout simplement en mangeant des délicieux bonbons qu'on appelle aussi les gummies. Et en fait, ces bonbons cacheraient un pouvoir merveilleux, celui d'embellir nos cheveux, nos ongles, notre peau et même notre sommeil. Je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Et ça tombe bien, ce n'est pas un rêve, car ce produit existe et nous allons en parler avec la marque de beauté Les Miraculeux. Alors de prime abord, on aurait tendance à penser qu'il s'agit effectivement de simples bonbons, mais vous allez vite découvrir que c'est bien plus que ça. Alors cette marque, Les Miraculeux, c'est donc le pari réussi d'allier les bénéfices santé et le plaisir gustatif. David, le fondateur, a souhaité changer notre rapport aux compléments alimentaires et collabore aujourd'hui avec un laboratoire français afin de développer une gamme complète qui sont formulées à base d'actifs végétaux, c'est faible en calories, c'est facile à consommer et à emporter avec soi. Et surtout, pour les avoir goûtés, le goût est vraiment très bon. Ah oui, et la très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir moins 10% sur le site lesmiraculeux.com avec le code PODCATBEAUTÉ tout attaché. Pas d'accent, rien du tout, tout en minuscules. Alors n'oubliez pas que ce podcast est à distance, le son est forcément un peu moins bon, mais on s'en est pas mal sorti en fait. Allez, bonne écoute. Nous allons donc découvrir ensemble Les Miraculeux avec son fondateur David Guenoun. Alors bonjour David, j'ai envie de te dire bienvenue chez toi et j'espère que tu es bien installé pour ce podcast.
Je suis au top Katia.
Nous sommes tous les deux confinés, et donc comme je vais le dire dans l'intro, nous podcastons à distance. Alors où est-ce que tu es en ce moment et dans quelle ville ?
Je suis à Bordeaux actuellement.
Ah, t'es à Bordeaux, ok. Mais t'es Marseillais à la base, hein, ouais. C'est ça ?
Exactement, ouais, je suis Marseillais, j'habite à Paris, mais ma belle famille est à Bordeaux et on est allé se confiner là-bas, où on a plus d'espace, on a la chance d'avoir un petit jardin, donc ça nous permet un peu de sortir dans cette période un peu morose.
C'est ça. Et le télétravail, ça va? Ça fonctionne? Le Wi-Fi?
Ouais, on s'organise. Alors nous, tu sais, on a commencé Les Miraculeux il n'y a pas super longtemps, donc il y a plein de personnes dans l'équipe qui viennent d'arriver. Donc on n'avait déjà pas beaucoup l'habitude de travailler en bureau. Donc là,
j'imagine. Nos marques en télétravail, quoi. Bon, bah c'est normal. Après, je crois que tout le monde a essayé de trouver ses marques la première semaine de confinement. Hein. Là, ça commence à aller mieux.
C'est pas plus mal. On apprend des trucs aussi. On apprend à utiliser d'autres outils. Je pense qu'on fera moins de réunions physiques ensuite quand on reviendra à la normale aussi. Donc, je pense que c'est pas mal. Il y aura des bons enseignements à en tirer, à mon avis. Hein.
C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, écoute, on va arrêter de parler du confinement, hein, parce qu'on est là pour parler beauté.
Oui.
Est-ce que tu peux me parler rapidement de toi et de ton enfance? Tu as eu une enfance à Marseille, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, je suis né à Marseille, sous le soleil, avec une enfance... heureuse quand on est dans le sud parce que tu passes ta vie en extérieur, tu as la plage pas loin, donc je suis vraiment un amoureux de Marseille et j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, juste après mon bac, je suis monté à Paris pour faire mes études et je me dis maintenant depuis un peu plus de 17 ans, donc je viens de faire la bascule entre le plus de temps passé à Paris que mon enfance passée à Marseille.
C'est ça, oui, il y a un moment où ça bascule, c'est vrai. T'es plus parisien que marseillais maintenant.
Non, j'accepte pas cette affirmation, mais je me sens toujours plus marseillais. J'espère redescendre un jour, mais on pourra s'organiser peut-être un jour pour avoir deux bureaux, un à Paris, un à Marseille, qui sait.
Ah voilà, c'est ça, ouvrir un bureau à Marseille, c'est canon. Est-ce que tu peux, rapidement non, mais est-ce que tu peux me parler de ton parcours avant que tu crées ta marque, donc après tes études finalement, qu'est-ce que tu as fait comme premier job et comme job tout court?
Alors, j'ai eu une formation commerciale, donc je suis sorti d'école de commerce en 2009, mais quand j'étais en école de commerce, déjà moi j'étais passionné par l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai fait des études de commerce, parce que je voulais entreprendre. Quand j'étais gamin à Marseille, mes grands-parents avaient une papeterie et je passais ma vie à la papeterie. Je voulais vendre, je voulais être à la caisse. J'ai toujours adoré ça. C'est vraiment une passion. Comme beaucoup de monde, je vendais mes dessins quand j'étais petit. Enfin, j'étais vraiment le business, c'était un truc qui me passionnait. Donc, dès que je suis rentré en école de commerce, première année, j'ai monté un premier projet. C'était aussi en rapport avec la santé. Et l'idée, c'était de suivre des personnes qui étaient implantées de dispositifs médicaux avec une sorte de carte à puce qui enregistrait les données de leur dispositif médical implanté. Wow, un truc assez technique. Mais j'avais des, si tu veux, mon père est cardiologue et c'est une problématique qu'il avait avec ses patients. Donc on a commencé à travailler sur ce sujet-là. C'était ma première expérience entrepreneuriale et mon premier plantage aussi, puisque la boîte, après y avoir passé beaucoup de temps pendant un an, j'ai jamais réussi à la développer. Donc au bout d'un an, on a fermé. Je me suis lancé en deuxième année d'école sur un deuxième projet, toujours dans la communication dans le domaine de la santé. Et ça, c'est un projet qui a fonctionné. C'est une boîte qui s'appelle Idée à suivre, qui existe encore aujourd'hui et qui fait des...
D'accord. Tu l'as revendue ?
Non, elle existe toujours aujourd'hui. Elle fonctionne. Elle fait son...
D'accord.
Ouais.
Son petit bout de chemin.
Son petit bout de chemin. Donc ça, c'était mes deux expériences entrepreneuriales pendant mes études. Quand je suis sorti d'école, je me suis dit bon, l'entrepreneuriat c'est bien, mais j'aimerais quand même apprendre des choses un peu plus structurantes, on va dire. Et j'avais quand même conscience, et j'avais pris conscience aussi dans ces deux projets que je connaissais pas grand chose. Donc j'avais envie de me former davantage et j'ai intégré, comme beaucoup l'ont fait à ce moment-là, un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Bain & Compagnie, où j'ai passé 4 ans. Hyper intéressant quand on sort d'études parce qu'on fait des missions de conseil dans des grands groupes. Alors ça peut paraître bizarre parce que quand on se dit mais le gars il était étudiant il y a une semaine et maintenant il me donne des conseils pour ma boîte. C'est vrai que c'est... Mais on est quand même encadré par des partenaires, par des managers qui font ça depuis des années et ça apporte vraiment un cadre et ça apprend à réfléchir. Et c'est un très bon troisième cycle, je trouve, ou quatrième cycle après les études. J'ai appris plein de choses et notamment, c'est très formateur pour monter une boîte derrière parce qu'on apprend à regarder la santé d'une boîte de façon très, très précise, à connaître les leviers qui font qu'une boîte fonctionne ou ne fonctionne pas. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. La suite, justement, ça a été de me relancer dans l'entrepreneuriat parce que ça me manquait. Donc, j'ai quitté Bain pour me lancer dans un projet pour monter une boîte de marketing digital qui s'appelle Facelift.
Ça me dit quelque chose. Ça existe toujours ?
Ça existe toujours aujourd'hui, oui. J'ai monté ça avec un associé qui s'appelle Didier Fredenucci, avec qui on faisait une super équipe. Et on a monté ce projet en France. L'idée, c'était d'agréger toutes les plateformes sociales, les YouTube, Facebook, Instagram, etc., au sein d'un même outil de modération. C'était à destination des grands groupes pour leur permettre d'améliorer leur productivité et plutôt que d'avoir 20 community managers, en avoir 2 qui géraient toutes leurs pages. Aujourd'hui, ça paraît assez commun, mais à l'époque, quand on a fait ça, c'était en 2013, c'était assez novateur. On s'était développé en Allemagne et pas en France, et nous, on a lancé ce modèle-là en France. Ça a très bien fonctionné, et on a été racheté au bout d'un an par une entreprise justement allemande qui ensuite a investi en France pour développer ce business-là. Et la boîte existe encore aujourd'hui, elle prospère bien aujourd'hui. Didier est toujours présent dans l'entreprise et ça fonctionne très bien de ce que je sais.
D'accord. Mais alors du coup, toi, j'ai vu que tu as été chez Coca-Cola.
Exactement, et c'est suite à Facelift, suite à la revente de Facelift, que je suis allé chez Coca-Cola, qui était un client de Facelift.
Ah, d'accord.
Exactement, c'était un client de Facelift, c'était aussi un client de Bain. Donc moi, j'avais beaucoup travaillé avec eux, je les connaissais bien, et ils recherchaient à ce moment-là un profil intrapreneurial pour monter une nouvelle division chez Coca-Cola. Donc le challenge m'a intéressé, m'a beaucoup plu. Les personnes que j'ai rencontrées là-bas aussi étaient très inspirantes. Et vraiment, chez Coca, il y a un truc avec l'engagement, quoi. Les gens sont vraiment à fond dans cette boîte. La marque, elle incarne quelque chose. Tu vois, c'est vraiment... Moi, je m'étais dit, bon, je suis plutôt entrepreneur, les grands groupes, ça me dit pas trop, mais Coca, il y avait une énergie qui était vachement particulière et qui m'a plu. Donc, j'ai rejoint Coca. J'ai passé 4 ans aussi chez Coca-Cola. 4 ans. Belles années.
Ouais. Mais en fait, c'est là aussi où j'ai pu lire qu'il y a eu une prise de conscience qui s'est opérée du coup chez Coca-Cola.
Ouais.
Il y a eu un petit déclic entre l'alimentation et la santé.
Ouais, tout à fait, parce que chez Coca-Cola, pendant 2 ans, je me suis occupé de la négociation commerciale avec la grande distribution, notamment le groupe Carrefour. C'est les sujets de santé, les sujets de sucre, de nutrition, c'est des sujets qu'on te renvoie quand même vachement souvent à la figure quand tu représentes Coca-Cola.
Les RP doivent avoir du travail, oui.
Ouais, les RP ont du boulot chez Coca, en effet. Et effectivement, on ne peut pas se voiler la face. Il y a vraiment un changement dans les habitudes de consommation. On va vers une consommation plus raisonnée. Les gens ont de meilleures connaissances aujourd'hui de l'impact des aliments sur leur corps. Donc, si tu veux, il y a une prise de conscience qu'on peut pas ignorer. Et disons que moi, tout ça, ça m'a donné envie de faire quelque chose d'utile et qui allait dans le sens de ces nouvelles habitudes de consommation et dans le manger mieux, manger plus sain. Donc, la nutrition, la santé, moi, c'est... Bon, la santé, comme je te disais dans mon parcours, c'est un sujet autour duquel j'ai beaucoup tourné depuis le début de ma carrière et qui m'intéresse. J'ai voulu vraiment en savoir plus sur ce sujet. Alors, j'ai repris mes études en fac de médecine à Bichat.
C'est ça. Alors, à 34 ans, c'est ça? Tu as repris tes études à 34 ans.
Ouais, exactement. J'ai repris mes études pour passer un diplôme universitaire de diététique et nutrition clinique et thérapeutique.
Voilà, wow. Mais alors, tu quittes Coca-Cola?
À ce moment-là, je quitte Coca, effectivement. Je quitte Coca. Mm-hmm. En fait, il y a eu deux choses en même temps. Quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter un projet là-dedans. Et il y avait quand même mon naturel d'entrepreneur qui revenait et qui me disait, bon, allez, faut que tu te relances, que tu refasses un projet. Donc, il y avait cette motivation-là, plus celle de reprendre mes études et de me spécialiser dans ce domaine de la nutrition. Et donc, j'ai quitté Coca et j'ai mené ces deux projets en parallèle. J'allais à la fac toutes les semaines pour passer ce diplôme que j'ai obtenu à la fin de l'année. Et en parallèle, je réfléchissais au miraculeux. Et si tu veux, ce qui m'a motivé au départ pour monter les miraculeux, c'est de me dire la santé, la nutrition, ça, c'est des sujets qui sont sérieux. Mais on peut quand même les aborder avec un autre, peut-être avec une autre tonalité, avec une tonalité plus positive, avec une tonalité plus qui donne plus envie. Parce qu'au final, aujourd'hui, dans ce milieu des compléments alimentaires et des vitamines, c'est des produits qui donnent franchement pas envie, quoi. Donc voilà, l'idée.
Pas envie du tout, oui, c'est pas fun, quoi.
Donc l'idée, c'est de se dire, bon, on va essayer de redonner. De réenchanter cette catégorie et en même temps de le faire de façon sérieuse, d'où les études en nutrition et ensuite la naissance du projet.
D'accord. Alors, juste les miraculeux, du coup, tu as eu l'idée pendant que tu faisais tes études ou tu l'avais déjà eu un petit peu avant au final?
Ce que j'avais avant, c'était la motivation de faire un projet, d'avoir quelque chose qui allait réconcilier la santé et le plaisir. Ça, c'était mon obsession. Et après, c'est vraiment en faisant mes études que j'ai découvert les vitamines et les compléments alimentaires.
Tu n'en prenais pas toi-même des vitamines ou des compléments alimentaires à cette époque-là? Tu en prenais ou pas?
Si, ça m'arrivait un peu comme tout le monde d'en prendre pour avoir un coup de boost au moment des changements de saison. Par exemple, je faisais souvent la cure de vitamine C à l'arrivée de l'automne ou de l'hiver. Ou j'en avais pris pendant les examens aussi, enfin... Ouais, ça m'était arrivé souvent de prendre des vitamines et des compléments, mais jamais avec plaisir, plus par nécessité.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, du coup, à quel moment tu commences réellement à travailler donc sur ta société qui s'appelle Les Miraculeux?
Ben, c'est, alors justement, pendant que je fais ces études, en m'intéressant, on étudie les vitamines et les compléments alimentaires, et il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est que tu te rends compte que la plupart des gens qui commencent une cure aujourd'hui de vitamines et de compléments alimentaires, qu'est-ce qui se passe au bout de 2-3 jours? Ils arrêtent, ils oublient, etc.
Ils arrêtent. Voilà.
Donc c'est là où je me dis, c'est sur ce sujet que je veux me concentrer. Et mon projet de réconcilier la santé et le plaisir, bah tiens, là, il y a un terreau très favorable pour le faire. C'est en cours d'année, ça, on est en octobre 2018 à ce moment-là, et je commence à réfléchir du coup à un produit qui pourrait réconcilier la santé et le plaisir. Et au départ, ce ne sont pas des gummies. Ah. Au départ, ce sont des shots à boire.
Ok. C'est ce que j'ai pu lire, mais je n'étais pas sûre. Ok, c'était bien des shots au départ.
Ce sont des shots. Mm. Au début, ce sont des shots à boire avec l'idée que on allait créer un petit shot qui serait à l'intersection entre une boisson et un complément alimentaire qu'on prendrait tous les matins en mode un peu potion magique Astérix et ça donne l'énergie pour toute la journée.
Et tu as arrêté les shots à boire.
En fait, on a continué jusqu'à l'industrialisation et en industrialisant, on s'est rendu compte que pour avoir une conservation longue sur ces produits, il allait falloir les traiter et en les traitant, on perdait les qualités nutritionnelles.
Ah, ok. Ouais.
Et du coup, on devenait une boisson, mais plus un complément alimentaire parce qu'on avait perdu les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments en cours de traitement. Okay. Du coup, une fois que...
Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant.
Ouais, il a fallu aller assez loin pour s'en rendre compte, parce que si tu veux, tant qu'on était en laboratoire, etc., ça marchait, mais c'est vraiment au moment de l'industrialisation, du passage à l'échelle, que le souci s'est vraiment posé, quoi. Donc, c'est là où je me dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une boisson saine mais qui s'éloignera du coup de notre ambition santé, ou est-ce qu'on pivote complètement et on envisage un autre produit? Donc j'ai pris la deuxième option, parce que moi, c'était vraiment la santé qui m'intéressait et non pas l'aspect boisson en tant que tel. Donc j'ai cherché une nouvelle forme, en pharmacie on parle d'une nouvelle galénique. Et aux États-Unis, il y a une galénique qui est la galénique gummies, qui est super développée depuis quelques années pour les vitamines et les compléments alimentaires. Donc, je me suis inspiré de ce qui s'était fait là-bas et de la façon dont ils le faisaient. Et j'ai trouvé un laboratoire en France avec qui on a fait un partenariat pour développer ces compléments alimentaires sous forme de gomme fruitée.
D'accord. Donc, il y avait un laboratoire qui le faisait déjà, ou c'est toi qui les as initiés à ça, aux gummies au final?
En fait, c'est les gummies en Europe, c'était déjà assez développé pour les enfants. Il y avait des petits gummies de vitamine D qui permettaient à des enfants de les prendre quand ils n'arrivaient pas à avaler des gélules ou des comprimés. C'était pour les adultes en France, c'était inexistant. Donc, on a en fait développé avec eux des formules. On a monté de notre côté un comité scientifique avec des pharmaciens, des médecins pour réfléchir sur les formulations. Et on a ensuite utilisé, si tu veux, l'expertise qu'ils avaient sur les gummies pour enfants pour développer la suite.
Ouais, parce que je ne sais pas si on l'a dit du coup, c'est que les gummies, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, c'est des bonbons, c'est des sortes de bonbons.
Oui,
c'est des bonbons.
Oui, tout à fait. Donc,
ça ressemble à des bonbons.
Effectivement, pour définir un petit peu mieux, parce que c'est dur, on ne voit pas les produits. Donc.
Bah, moi, je les ai sous la main, donc je vois et ça sent super bon. Mais c'est vrai qu'un gummies, on sait...
Ouais. Pour les définir un peu mieux, en fait, nous, ce qu'on fait, les miraculeux, c'est que pour des besoins comme l'énergie, le sommeil, la beauté, il existe aujourd'hui en pharmacie des gélules et des comprimés. Nous, on est allé répliquer les dosages, les formules qui existent dans ces formes gélules comprimées sous forme de gomme fruitée qu'on appelle des gummies. Donc c'est exactement la même chose qu'une gélule ou qu'un comprimé, sauf que au lieu d'incorporer les actifs dans un cachet, nous on les incorpore dans de la pectine de fruits. Donc c'est plus agréable, c'est bien meilleur, effectivement, ça a bon goût, donc ça se mâche comme un bonbon, c'est un plaisir de les prendre tous les jours, de prendre ces vitamines. C'est très bien absorbé par l'organisme. Et surtout, ça donne envie de les prendre tous les matins et d'aller au bout de sa cure de vitamines. Donc les miraculeux, voilà, concrètement, pour essayer de le décrire sans le voir, c'est ça, c'est une gomme fruitée, ça peut ressembler à un ourson Haribo ou quelque chose comme ça, quoi, un dragibus.
C'est rouge, oui, c'est un gummies rouge et ça sent super bon. Et voilà, ouais, voilà, c'est vrai que ça donne envie d'en prendre tous les matins. Et du coup, donc c'est une marque, alors ça c'est important quand même pour, dans les podcasts beauté, c'est que c'est une marque qui est 100% française et elle est totalement végane. Hein.
Oui, totalement végane. En fait, on a remplacé la gélatine qui est habituellement utilisée pour les gummies par de la pectine de fruits pour être 100% végétale. Et pareil pour les vitamines, il y a certaines vitamines qui sont souvent d'origine animale, comme la vitamine D, pour laquelle on a trouvé des alternatives végétales afin d'avoir un gummy 100% vegan.
Canon. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compté, vous avez trois produits sur le marché. C'est les miraculeux, donc la beauté. Il y en a un pour le sommeil et il y en a un pour l'énergie.
Exactement, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc la beauté, ça va agir sur les cheveux, les ongles et la peau, à partir d'un actif qui est bien connu, qui s'appelle la biotine, et qui est très efficace pour la pousse des cheveux et le renforcement des cheveux. On l'associe à de la vitamine B6, du zinc et de l'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique aussi, très connu, il va avoir une action sur l'hydratation de la peau. Et quant à du coup l'alliance de la biotine et de la vitamine B6, ça va permettre au corps de fabriquer beaucoup plus de kératine que d'habitude, et donc ça va alimenter les ongles et les cheveux. C'est une cure qui dure 3 mois, la cure complète. Il y a 42 gummies dans une boîte, donc ça fait 21 jours. Donc il faut 4 boîtes pour faire une cure complète beauté.
D'accord, ça c'est ce que tu recommandes.
Voilà, tout à fait, parce que les effets, on commence vraiment à les voir au bout de 3 semaines, 1 mois. C'est là où le corps commence à s'habituer à la quantité très importante de kératine qu'il génère. Et on va observer sur les ongles, par exemple, qui vont beaucoup moins se dédoubler. Il y aura beaucoup moins de marques également sur les ongles, ils vont pousser plus vite. Sur les cheveux, c'est pareil, il y aura beaucoup moins de casse à la brosse et ils vont se renforcer petit à petit. Et au bout d'un mois, 1 mois et demi, on va voir une véritable accélération de la pousse. Et on a des clientes qui nous disent qu'elles ont pris 3 cm de pousse en 1 mois, au bout du 2e mois.
Et celui du sommeil, si tu peux nous en parler rapidement, parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens, à cause du confinement et de ce qui se passe, qui ont du mal à dormir. Il est efficace très rapidement
Oui, celui du sommeil, on l'a conçu pour qu'il soit efficace dès la première nuit. Il est à base de mélatonine, d'extrait de plantes et d'un acide aminé qui s'appelle la L-théanine qui va agir sur la relaxation. Donc il va avoir 3 actions en fait. Il va permettre, 1, de se relaxer avant d'aller dormir grâce à la L-théanine, 2, de réduire le temps d'endormissement, c'est l'action de la mélatonine, et 3, d'améliorer la qualité du sommeil, c'est l'action des plantes, notamment le pavot de Californie. Et ce qui va faire que quand tu te réveilles le matin, eh ben, t'es moins fatigué. T'as l'impression d'avoir eu une nuit beaucoup plus reposante. Et c'est pas qu'une impression, c'est parce qu'en effet, grâce au pavot de Californie, ça réduit les réveils nocturnes et ça va faire que tu dors plus profondément. Donc ça améliore la qualité du sommeil dès la première prise. Et pour des gens qui ont des difficultés plus régulières à dormir, on recommande une cure de 3 semaines. Qui va avoir comme effet de recaler les cycles de sommeil et qui va permettre à la personne ensuite, même en arrêtant les gummies, de dormir durablement mieux.
Très bien. On va continuer sur lorsque tu as créé ta société. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cru en toi tout de suite et qui t'ont conforté dans cette idée ? Parce que vu que c'était nouveau en France, je suis sûre que tu as des gens qui t'ont dit « mais ça ne va pas ». Ça va jamais marcher. Enfin, tu sais comment c'est quand tu essayes d'entreprendre.
Ouais. Non, mais franchement, C'est exactement ça. En fait, c'est marrant parce qu'au début, c'est un peu
c'est
toujours
fou, hein,
ça, la réaction. Les gens, ils te regardent un peu dubitatif. Mais qu'est-ce que tu fais ? En plus, quand tu t'attaques à un domaine aussi traditionnel que celui de la santé, aussi établi, on dit non, mais en face de toi, il n'y a que des c'est énormes ça. Laboratoires, ouais. etc. Donc, les gens te prennent un peu pour un fou. Et quand en plus, tu leur expliques que tu vas faire des compléments alimentaires sous forme de gummies, de gomme fruitée,
ouais.
ils disent,
non, mais là,
c'est... Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que l'innovation, je ne sais pas, c'est peut-être caractéristique de notre pays, j'en sais rien, mais c'est l'innovation peur. Fait peur, mmh. c'est clair. Après, en fait, l'opinion et le regard des gens changent une fois que tu as obtenu ce qu'on appelle le product market fit, qui est un peu le graal pour un ouais. entrepreneur qui fait un produit, c'est-à-dire le moment où tu lances ton produit et la réponse du marché est positive, la réponse des clients est positive. C'est ce qui s'est passé pour nous, parce que dès qu'on a lancé les produits en crowdfunding, on avait un objectif de vendre 200 boîtes pendant notre période de crowdfunding qui durait 30 jours, et on les a vendues en une heure.
Wow.
Donc, si tu veux, hein, à ce moment-là, tout le monde dit « Ah, mais en fait, c'était peut-être pas mal ce truc-là. »
ouais,
et tous les gens qui t'avaient dit que c'était complètement dingue avant reviennent en disant ouais, « C'est vraiment une bonne idée. » Ouais, ouais, bah, d'accord. Bah, c'est plus facile de le constater après qu'avant.
Ouais, c'est souvent comme ça. Oui, parce qu'on a oublié de le dire. Donc, tu as été sur une plateforme de crowdfunding. C'est laquelle, Ulule ?
Ouais, Ulule, exactement.
Mmh.
Ouais. Et ça permet effectivement de tester vite le comment dire, l'attrait des gens pour ton produit. Parce que là, c'est tu te jettes à l'eau. Les résultats que tu vas faire en termes de vente sont visibles. Il y a un compteur qui s'affiche sur la plateforme. Donc, en gros, ton produit ne marche pas, tout le monde le sait. Ton produit marche, tout le monde le sait.
C'est vrai. Mmh. Ouais. Et c'est... tu t'y attendais pas, ça, en une heure ?
Non, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout. C'est une campagne qu'on avait beaucoup préparée. Donc, c'est pas dû au hasard. Il y a beaucoup de travail derrière pour teaser sur le fait qu'on allait lancer la campagne, pour en parler beaucoup autour de nous, notre entourage et autres. Donc, c'est pas dû au hasard, mais l'ampleur que ça a pris, ça nous a surpris.
Alors, est-ce que tu sais qui sont tes acheteurs ou tes clients aujourd'hui ? T'as une idée ou pas ? Est-ce que tu as
oui.
réussi à changer des personnes qui achetaient en pharmacie ? Est-ce que c'est des personnes plus jeunes ?
Oui. Alors, ce que je vais dire, ça va peut-être évoluer avec le temps, parce que pour l'instant, on a 3 mois de vente. C'est assez récent. Mais là, on observe qu'on a déjà beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, on est à peu près à 80% de femmes, 20% d'hommes. Pas forcément parce que nos produits sont dédiés aux femmes. Hein, le sommeil, l'énergie, c'est vraiment pour tout le monde. Peut-être la beauté est un peu plus... c'est un peu plus une préoccupation des femmes que des hommes. Mais sinon, nos produits sont destinés à tout le monde. Mais on a quand même beaucoup plus de femmes dans notre clientèle. C'est le cas pour tous les compléments alimentaires. Ça, c'est pas spécifique à nous, les miraculeux. Après, on a une population qui est majoritairement entre 30 et 40 ans, on va dire. On a 70% des gens qui avaient déjà l'habitude de consommer des compléments alimentaires, et le reste sont des personnes qui découvrent les bienfaits, les vertus des compléments alimentaires par les miraculeux.
Ok. Et puis tout ça va certainement changer, oui, parce que... Et puis tu sais, je me dis, il y a peut-être des femmes qui en achètent, mais c'est pour toute la famille.
Ah ben ça on le voit souvent, parce qu'on a des clientes parfois qui passent commande par téléphone, et elles nous disent « Ah, je commande pour mon mari », etc. Donc on sait qu'effectivement, c'est des femmes qui commandent souvent pour leur famille.
Ouais. Moi, je suis contente que dans les miraculeux beautés, j'ai vu qu'il y avait de la vitamine B12. Et alors, c'est une vitamine dont on parle pas souvent. Alors moi, pour le coup, je suis végétarienne depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait des années parce que j'ai dépassé la trentaine. Et en fait, jamais on m'avait parlé que les végétariens pouvaient avoir des déficits en B12. Donc c'est vrai que j'ai commencé à prendre des gélules de B12 depuis quelques années maintenant. Et c'est rare que je vois des compléments alimentaires où il y a plusieurs choses ensemble. En tout cas, il y a jamais de B12. Donc là, je suis contente, je voulais le dire, en tout cas pour les végétariens. La vitamine B12 dans la beauté, bah bravo, parce que vraiment, c'est rare qu'on en voit en fait aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'effectivement, comme les régimes alimentaires sont de plus en plus... certains végétariens, mais pour la plupart flexitariens, hein, je crois, tout le monde réduit un petit peu sa consommation de viande quand on pose la question, et de B12. Donc effectivement, on essaye d'en mettre dans tous nos compléments. Ouais. Alors pas dans celui sommeil, parce que le B12 a une action sur l'énergie, donc ce serait pas propice. Mais pour la beauté, effectivement, on inclut de la B12.
Oui. Ah, maintenant que ça fait plusieurs mois que Mes Miraculeux existent, que tu vends, j'aurais aimé que tu me racontes le plus grand moment de joie que tu as eu lors de cette création ou depuis cette création. À un moment où vous avez peut-être sorti le champagne ou... c'est dur.
C'est dur de choisir parce qu'on en a eu plein.
C'est bien.
C'est d'ailleurs ça qui est passionnant, franchement, dans les premiers moments d'une boîte, c'est que tous les jours on vit des choses auxquelles on s'attend pas et qui sont assez extraordinaires, quoi. Donc, si je devais en choisir un, Non, le moment que je te décrivais tout à l'heure, quand on a lancé nos produits sur le marché avec la campagne de crowdfunding, ça, c'est vraiment un moment super fort. Parce que,
c'est un moment dingue.
J'étais dans le bureau avec ma collaboratrice Eléa, qui est ma collaboratrice depuis le début dans cette aventure. Et on avait travaillé vraiment dur depuis des mois pour lancer cette campagne de crowdfunding. Et si tu veux, le moment où tu appuies sur le bouton, que la page est live et que tu vois le compteur qui commence à démarrer, que tu reçois des messages de félicitations de partout, en WhatsApp, en mail, en truc. Et là tu as vraiment un sentiment de joie, mais enfin, qui est difficile à décrire parce que c'est vraiment l'aboutissement de tout ce que tu as fait. C'est le jour où ton projet devient une entreprise. Parce que jusqu'à ça faisait presque 2 ans que je réfléchissais à ce projet et tant que t'as rien vendu, ça reste qu'un projet, tu vois. Le jour où tu as un client qui vient de rentrer son numéro de carte bleue pour acheter le produit que t'as pensé, que t'as réfléchi, que t'as fabriqué, c'est incroyable. C'est un sentiment incroyable. Donc, c'était vraiment le moment de joie que j'ai partagé à ce moment-là avec Eléa, le plus intense et le plus fort, de se dire, ça y est, on vient de franchir une étape. Les Miraculeux, c'est plus un projet, maintenant, c'est une entreprise. Ouais.
Alors justement, parlant de Léa, aujourd'hui, vous êtes combien ? Vous êtes deux ou vous êtes plusieurs dans la team ?
Non, figure-toi que maintenant, on est 8.
Ah oui, quand même. Ah oui.
Oui, ça a très vite grandi parce que, si tu veux, on a dû se staffer rapidement parce que en termes de commandes, en termes de logistique, en termes de service client, c'est allé très vite. Il a fallu s'équiper et maintenant on a recruté des personnes qui prennent part à l'aventure sur tous ces sujets-là. On continue de recruter, donc s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont intéressées, n'hésitez pas.
Alors qu'est-ce que tu cherches comme personne, comme job, comme...
Là on va recruter en septembre, on cherche une personne, un responsable commercial, une responsable commerciale. Pour s'occuper des pharmacies, de Monoprix, chez qui on commence aussi à être de plus en plus présents.
Très bien. Bon, bah, écoutez, c'est lancé. Hein, s'il y a des gens qui écoutent le podcast, je pense qu'il y a des commerciaux qui doivent les écouter. Donc, voilà.
Envoyez-nous vos CV.
Dernière question avant de parler de ta beauté à toi. Où peut-on trouver vos produits vraiment aujourd'hui?
Alors, on va dire le plus simple, ça reste sur le site internet parce que c'est livré partout en France et partout dans le monde. On a beaucoup de clients même en Belgique, en Suisse qui commandent. Donc, lesmiraculeux.com, c'est le plus direct et le plus simple. Livraison en 48 à 72 heures, même pendant la période
même
de confinement.
Même en ce moment,
oui. Même en ce moment parce que nos entrepôts et notre site de préparation des colis a mis en place toutes les mesures de sécurité sanitaire pour qu'on puisse continuer de travailler. Donc, donc voilà, on a pu adapter tout notre outil pour continuer à travailler en ce moment. Donc les commandes continuent. Et d'ailleurs, c'est une période dans laquelle on a beaucoup de demandes parce que tout ce qui est l'énergie, le sommeil, etc., c'est des préoccupations des gens en ce moment en confinement. Donc, on continue de servir toute la demande qu'on a actuellement. On est présent également chez Monoprix. Et on est en train d'étendre petit à petit pour être présent dans tous les Monoprix de France. Pour l'instant, c'est juste à Paris. On sera présent partout en septembre. On est présent également en pharmacie, dans une vingtaine de pharmacies aujourd'hui qu'on peut retrouver sur notre site internet pour avoir les adresses. Et voilà, on continue petit à petit de se développer partout en France, essentiellement en pharmacie et dans des magasins spécialisés.
Très bien. Et combien coûte un produit Les Miraculeux? On ne l'a pas trop dit, ça. T'es au-dessus.
Non, on ne l'a pas dit, en effet. Et c'est un point important. C'est une boîte de 21 jours, ça coûte 19,90. Mmh. Nous, notre critère, c'est de rester en dessous de 1 euro par jour. Moi, depuis le départ, c'était
un
souhait et quelque chose m'était fixé parce que moins d'un euro par jour pour prendre soin de sa santé, ça me semble être un investissement raisonnable. C'est moins cher qu'un café. Ça permet pour tous d'accéder à une santé plus agréable, plus facile. Donc voilà, c'est notre critère. Du coup, on est à 19,90 pour 21 jours.
Écoute, David, on va passer à ta beauté à toi. Donc, je sais que c'est toujours plus difficile pour les hommes de parler de leur beauté, mais j'ai eu d'autres hommes qui sont passés par là et ils ont réussi. je les écoute un peu les questions en général quand j'ai un homme parce que c'est un peu plus rapide, vous, en général, c'est une crème et puis voilà.
D'accord. Donc, si les auditeurs n'entendent pas la suite de cet épisode, ils sauront que j'ai été coupé au montage.
Alors, David. Ouais. Quel est ton secret de beauté à toi?
Oui.
aïe. Il n'y en a que 5 questions. Ça va aller.
Écoute, moi, je vais prendre un joker. Je vais faire facile. Je vais dire, c'est de manger 2 miracles.
Et voilà, bah très bien. Mais justement, j'allais te demander.
Et ce qui est vrai en plus, puisque je prends les produits et je les teste depuis le premier jour. Donc je prends mes deux gummies beauté tous les matins.
Tu prends le beauté et l'énergie ou le sommeil?
Je prends le beauté, l'énergie et le sommeil, je le prends de temps en temps, pas en cure parce que j'ai pas de problème. D'accord. De sommeil, mais le soir quand j'ai été longtemps devant les écrans par exemple ou que j'ai plein de choses en tête, j'en prends deux et ça m'aide à dormir.
Okay.
Et le beauté, je le prends tous les matins. Et j'ai fait ma cure complète de 3 mois. Donc, je peux témoigner que sur la pousse des cheveux, c'est très efficace. Ma coiffeuse peut témoigner également. Donc, voilà, c'est mon secret beauté.
Alors, le pire beauté faux pas que tu aies fait dans ta jeunesse, ça peut être la coiffure aussi.
Eh bien, c'est aussi lié à la coiffure. Mon pire beauté faux pas, je ne sais pas ce qui m'avait pris autour de 11-12 ans. J'avais absolument envie d'avoir les cheveux longs. Donc, j'ai laissé pousser les cheveux à peu près au niveau des épaules. Sauf que j'avais un visage fin à l'époque et du coup, une fois sur deux, on me prenait pour une fille.
Donc, c'est marrant, tous les mecs veulent passer par une case cheveux longs à une époque, j'ai l'impression. Hein. C'est assez...
Ouais, j'ai eu ce truc-là. C'était l'époque où j'étais un peu skater aussi. Tu sais, c'était la mode.
Oui, bah oui.
C'était la mode un peu d'avoir les cheveux longs. Voilà, sauf que t'as pas un visage très masculin à l'époque, et chaque fois que j'allais à la boulangerie et qu'on me disait bonjour mademoiselle, bah, mon ego en prenait un coup.
Ah ouais,
quoi.
J'imagine. Ouais. Alors, ton produit de beauté indispensable en période de confinement? Un shampoing peut-être.
Ouais. Mon produit de beauté. Ouais, un savon, un shampoing, parce que effectivement, je pense que même en période de confinement, il faut continuer de se laver tous les jours, c'est important.
C'est ça.
Non, je vais te répondre à l'inverse à ta question. En fait, celui qui est devenu le moins indispensable, c'est la cire que je mets dans les cheveux. Ça, j'ai complètement arrêté.
Très bien, c'est... tu fais.
Voilà, parce que ma coiffeuse me dit qu'il faut pas en mettre tous les jours parce que c'est pas très bon pour les cheveux, mais moi je l'écoute pas trop parce qu'en même temps j'ai pas envie de ressembler à rien. Sauf que là en confinement, bah c'est moins grave, donc j'ai réduit la cire que je mettais dans mes cheveux depuis la période de confinement.
Bah c'est très très bien. Et j'allais te poser une question aussi. Alors c'est plus alimentation, mais est-ce que tu as toujours fait attention et ou est-ce que tu fais attention à ton alimentation aujourd'hui?
Ouais, complètement. Et alimentation rime avec bien-être général. On se demande souvent ah, qu'est-ce qu'on a, pourquoi je me sens pas bien, etc. Et la réponse est très souvent dans l'alimentation. Donc oui, j'y fais attention. Je suis pas non plus un ayatollah de la cuisine. Super veggie, ouais. Healthy, etc. Parce que l'alimentation, bien ça sûr. Doit rester un plaisir. Et c'est ce qu'on défend aussi avec les miraculeux, si tu veux. C'est que si ça devient un moment trop contraignant et vraiment pas plaisir, tu le fais plus. Ouais. T'as pas envie. Et ça doit c'est pas vrai. Être une contrainte.
Mais donc, t'as des aliments interdits ?
Pour l'alimentation, pour moi, c'est pareil. Non, j'ai aucun aliment interdit. Je mange de tout, raisonnable. Mais dans des proportions qui sont équilibrées, okay. Donc raisonnables. Quand je mange du chocolat, je ne mange pas une tablette. Quand je mange une glace, je ne prends pas 8 boules. Quand je mange des frites, je ne me resserre pas 3 fois. Donc voilà. Et d'ailleurs, je peux donner un petit tips là-dessus, moi, qui m'avait marqué pendant mes études. Qu'on se rendait compte que la plupart des personnes qui étaient obèses étaient des personnes qui se resservaient à table, qui se resservaient 2 fois ou 3 fois. Et c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais quand on se resserre, et ben finalement, on finit par manger 2 fois. Donc maintenant, moi, ça m'a marqué. Et à chaque fois, avant de me resservir, j'y pense et je me dis, non, mais est-ce que j'ai vraiment faim ou c'est plus par gourmandise. Et en se resserrant moins, et ben, en fait, on maigrit sans s'en rendre compte.
Bah, il paraît qu'il y a une petite anecdote là-dessus, c'est qu'au lieu de prendre une grande assiette, il vaut mieux prendre une petite assiette. Et plus... Comme ça, on a,
parce qu'on a
l'impression de bien manger si on remplit la petite assiette. C'est un tip ce qu'on m'avait donné.
Exactement.
Aussi.
Et... ça marche bien. Il y a aussi le fait de mâcher pendant plus longtemps. Ça permet de manger en moins grande quantité. Il y a plein de petits tips comme ça si on veut faire attention à son alimentation. Ils ne sont pas forcément super restrictifs comme supprimer des aliments. Moi, je ne suis pas trop pour les trucs méga restrictifs parce que je pense qu'on ne les tient pas dans la durée.
Eh bien, écoute, je crois qu'on a fini sur la beauté parce que tu as répondu aux autres questions dans les petites questions déjà. On arrive aux questions en vrac. Donc, c'est la dernière partie, David. Là, tu me réponds plus du tac au tac. Hein, tu n'es pas obligé de faire... d'en dire trop, en tout cas. Donc, la première question, c'est: David, es-tu un Marseillais devenu un peu parisien? Bah, tu me l'as dit dès l'intro, en fait. Donc, je ne vais pas te la reposer. Ça.
Je suis un Marseillais tout court, qui vit à Paris, voilà.
Voilà. Mais j'ai une question quand même. Quand tu reviens à Marseille en tant qu'habitant de Paris, ça se passe bien? Les gens ne t'embêtent pas trop? Ils ne disent pas que tu es devenu un Parisien? Les Marseillais?
Non, ça va. Tant que t'es de Marseille et tant que t'es... Voilà, ça passe.
D'accord. Alors, à part le travail en ce moment, qu'est-ce qui occupe vraiment le plus tes journées en période de confinement?
C'est le travail. c'est le travail.
Tu fais un peu, tu fais un peu de sport?
Un peu de sport, j'essaye de faire un peu de sport. Non, ce qui occupe nos journées aussi, c'est que on essaye de participer comme on peut à l'effort collectif de solidarité et à donner des produits, énergie et sommeil aux soignants et aux personnes qui sont en première ligne. Donc, on, on entre en contact avec toutes ces personnes en ce moment pour leur distribuer, pour leur offrir des produits. Donc, c'est l'activité qui, moi, me prend le plus de temps à côté du travail en ce moment.
Ah, d'accord. Je n'avais pas vu ça, que tu faisais ça en ce moment. C'est une super idée. Bravo.
On n'a pas trop communiqué dessus, mais on a eu, en fait, pas mal de demandes qui sont venues de soignants, des CHU qui nous ont écrit des messages pour nous demander des produits. Donc, du coup, on a mis ça en place assez naturellement sans avoir forcément lancé d'opération de communication ou marketing sur le sujet.
Bravo. Alors, qu'est-ce qui t'énerve le plus et que tu aimerais pouvoir changer d'un coup de baguette magique dans le monde, en général? Ça se voit que t'as pas lu mes questions.
Ce que j'aime... Ouais.
Ça, bah, tu pourrais avoir envie d'enlever le coronavirus, par exemple, en ce moment.
Je pense que c'est le truc assez naturel du moment.
Ouais, c'est pas mal.
Je réfléchis ce qu'il y a d'autre, mais moi il y a une chose que je crois que c'est ça. il y a rien d'autre qui me vient.
Non, mais c'est normal que ce soit ça, on entend ça tous les jours, c'est sûr que c'est un peu angoissant et... À quel moment tu es le plus heureux, en général?
Ben, je suis le plus heureux quand j'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile pour les autres. Moi, c'est ça mon moteur. C'est ça qui me motive aussi pour entreprendre et pour développer des produits. C'est d'avoir le sentiment de servir à quelque chose.
Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en lançant ta propre marque? Est-ce que tu t'es dit « Ah, mais en fait, je suis comme ça et je ne le savais pas ».
J'ai appris sur moi-même que j'étais... résilient, pense une qualité indispensable quand on entreprend, parce que tu parlais tout à l'heure des retours qu'on peut te faire au début quand on entreprend et on dit ah non mais t'es fou, ce truc ça marchera jamais, etc. Et si toi-même t'es pas résilient à fond et persuadé de ton truc et avoir une rage de vaincre pour mener à bien ton projet, t'y arrives pas. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en moi, cette capacité à avancer coûte que coûte et à mener à bien mon projet.
Est-ce que tu as une addiction dans la vie?
Gamies addict, ouais, déjà.
Ça, c'est facile, ça.
Facile.
Une autre. Le chocolat.
Est-ce que j'ai... Non, je suis pas forcément addict de chocolat. J'ai l'impression qu'à part bosser, je fais rien d'autre. Donc mes addictions, elles sont limitées.
Bah écoute, c'est le travail. Hein. Ça peut être le travail, ton addiction.
Ouais. C'est un petit peu le travail et c'est sûr que c'est forcément un petit peu le travail parce que ça occupe beaucoup. Une grande partie de ma vie et c'est une addiction dont il faut savoir aussi parfois se séparer et s'éloigner parce qu'il faut des moments de déconnexion et de break et c'est pas toujours facile de les trouver. Je suis convaincu que ces moments-là sont importants mais j'ai du mal à me les imposer. Donc ouais, je pense que ça peut être qualifié d'addiction du coup. Ouais.
C'est sûr. Et l'avenir des miraculeux, tu le vois comment?
L'avenir des miraculeux, je l'imagine avec beaucoup plus de produits que les trois qu'on a développés aujourd'hui, parce qu'on travaille actuellement pour élargir la gamme et répondre à beaucoup plus de besoins. Je l'imagine proche de nos clients et de nos consommateurs, car on essaie avec eux d'entretenir une relation de proximité dans laquelle on les accompagne, on les aide. C'est pas juste on leur vend des produits, mais on a envie d'être là pour répondre à leurs questions et pour les accompagner dans leur démarche. Donc voilà, c'est vraiment pour moi les deux axes les plus importants que je souhaite pousser à l'avenir, la proximité avec les gens et répondre à plus de besoins.
Bon, bah top. Écoute, voilà, c'est bientôt la fin. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour nos auditeurs? Auditrices, auditeurs.
Ouais, bah, je vais vous laisser avec notre... notre devise chez les miraculeux, notre devise, c'est n'attendez pas un miracle, provoquez-le.
Waouh, c'est canon. C'était ton premier podcast beauté ?
C'est mon premier podcast tout court, je crois, j'en avais pas fait avant. Ouais.
Écoute, bon, on l'a pas fait comme ça se passe vraiment, mais écoute, c'était pas mal comme ça aussi. Merci David, merci pour cet entretien et je souhaite plein de belles choses pour les miraculeux.
Merci.
Et je te dis à bientôt.
À très bientôt. Salut.
Salut.